Parti.
La libre antenne d'Europe 1.
Et oui, nous ne sommes pas encore le 20. Dans une heure et demie, nous serons le 20. Nous accueillons Loïc au 39-21. Bonsoir Loïc.
Oui, bonsoir Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous?
Ça va, un peu stressé quand même. Bon. Mais ça va passer, ça va passer.
Oui, oui. Bon, imaginez-vous, on est tous les deux là dans une bulle. Vous ne pensez pas à toutes ces oreilles qui vous écoutent. Et puis, ça va très bien se passer. Voilà. Alors, dites-moi tout.
Mais je tenais d'abord à féliciter les gens qui sont dans l'abstinence, que j'ai pu entendre hier. Parce que j'ai été moi aussi un jeune abstinent depuis 9 mois déjà.
Bravo.
Donc, je suis sorti en cours, en cure. Voilà.
Vous avez été en cure il y a 9 mois, pendant combien de temps, en fait?
Pendant 7 semaines.
Pendant 7 semaines.
7 semaines. Ouais. Voilà, où on a bien bossé déjà sur mon passé, sur mon enfance, dont évoqué ce soir.
Oui.
Qui me posait un problème et qui était peut-être aussi la source de mon alcoolisation. Mais bon, qui n'était pas la solution à ce passé un peu douloureux. Donc, il me manquait beaucoup d'éléments et beaucoup d'incompréhension. J'étais plutôt en colère contre des gens, contre les parents, contre des institutions qui, à mon avis, ont mal fait leur travail ou ont fait comme ils ont pu, comme ils ont pu.
Oui.
Voilà.
Alors, on va, je pense, évoquer cette enfance. On va évoquer aussi l'existence de ces et le fonctionnement de ces institutions dont vous parlez.
Oui.
Alors, cette enfance, pourquoi, en fait, me dites-vous que cela a été une enfance cabossée?
Parce que je suis né le 5 mai 60, hein, dans une famille un peu à problème, on va dire. J'avais une mère qui était handicapée des deux jambes, qui marchait avec les cannes.
Oui.
Qui était déjà la tête de 3 enfants en bas âge, de 1 à 3 ans. Et j'avais un père qui était alcoolique, toujours même problématique, violent, instable et sans travail. Donc, quand je suis arrivé le 5 mai, donc ma mère était très éprouvée déjà par l'accouchement et avait beaucoup de travail. Donc, elle a dû partir en cure pour se reposer. Et j'ai été passé le 11 mai, c'est-à-dire 6 jours plus tard, chez une tante. Élément que j'ai appris dans mon dossier de la DAF, dans un bureau. Voilà. Donc, j'ai été passé chez cette tante. Et je pense que c'était un placement qui aurait dû être de courte durée, sauf que 2 mois après, ma mère était de nouveau enceinte de mon nouveau frère, donc une nouvelle problématique. Donc ma tante m'a gardé un peu plus longtemps que prévu. Et je pense que je suis retourné à la maison, chez mes parents, à l'âge de 3 ans. Et donc j'ai été plongé dans une famille que je ne connaissais pas, puisque les liens affectifs se créent selon les pédopsychiatres dans les premiers mois. Donc mon affection, ma mère, c'était ma tante. Donc des problèmes de relations entre mère et fils.
Oui.
Donc ma mère m'a carrément abandonné, comme j'étais un enfant qui souvent devait sûrement pleurer beaucoup, qui agaçait, ne savait pas comment me faire taire. Donc mon père me mettait dehors. c'était la solution radicale. Elle avait déjà pas mal de travail, je suppose, avec ses autres enfants, hein, et avec l'accouchement, l'accouchement était déjà fait. Donc, elle avait d'autres enfants à s'occuper. Et donc, elle m'a carrément délaissé. Et dernièrement, j'ai vu mon oncle qui m'a justement raconté une histoire, qui était venu revoir ma mère, et puis ils m'ont trouvé tout nu, dehors, dans la boue, dans mes excréments, maltraités. Donc, ils m'ont repris d'urgence sur leur coupe pour me remonter un petit peu la santé. Je suis après pourtant retourné chez eux, chez ces parents-là, parce que bon, je pense que ma tante avait d'autres occupations à faire.
Oui.
Et de nouveau, délaissement. Donc, ma mère n'avait aucun lien affectif avec moi. Toujours, j'étais sûrement un enfant très... très colérique, qui pleurait, mais bon, qu'on n'arrivait pas à faire taire, donc toujours maltraitance de la part du père, hein, qui tapait son épouse et qui nous tapait à nous aussi, donc du fait de son alcoolisme, moi je suppose. Hein.
Et vous aviez quel âge cette violence, elle durait depuis le début, en fait
Pas le début, puisque comme j'étais passé à 6 jours, donc les 3 premières années, je pense que, comme j'étais chez ma tante, je n'avais pas à faire face à mon père.
Oui, c'est ça, oui. Heureusement qu'elle était là, cette tante, finalement.
Voilà. Le problème, c'est que c'est que le lien affectif, je l'avais avec elle.
Oui.
Et ça, je pense qu'ils l'ont un petit peu oublié. Ils n'ont pas pensé. Bon, peut-être qu'ils ne connaissaient pas comment se forment les liens affectifs avec une mère. Hein. Moi, je n'avais que l'odeur de ma tante. Je n'avais que sa voix. Voilà. Sa peau, c'était elle. Donc, ma mère, même si elle me prenait dans ses bras, pour moi, c'était une inconnue. Donc, elle me faisait plutôt peur qu'autre chose. Donc, en plus, avec son handicap, donc, à 3 ans, je ne sais pas si j'en étais encore conscient de son handicap, mais pour moi, ce n'était pas ma mère. Donc, automatiquement, elle m'a délaissé. Donc, après 3 ans, donc, vu que le lien ne se faisait pas, elle m'a placé chez un oncle à elle.
Oui.
Et là, pareil, maltraitance, c'est-à-dire c'était un oncle qui buvait, sa femme aussi. Et j'avais été placé avec ma sœur, hein, qui a juste 1 an de plus que moi. Alors, elle est née le 5 mai, mais 59. Donc c'était bien. Et c'était un monsieur qui, pour se débarrasser de nous, pour pouvoir aller boire tranquillement le week-end, nous enfermait dans le grenier, donc sans manger, sans boire. Voilà, donc on faisait ses excréments, mais là où on pouvait, on dormait sur un matelas. Et on attendait leur retour.
Quelle horreur. Ils vous laissaient parfois... Vous aviez la notion du temps, un peu, ou ils vous laissaient plus de 24 heures seuls?
Je pense que c'était parfois le week-end. 1-2 jours, parce que bon, dans les campagnes, il y avait des balles, donc ils allaient aux balles, donc ils se saoulaient. Donc, quand ils revenaient à la maison, c'était pas très clair. Parfois, même, ils devaient nous oublier là-haut. Donc, c'était... Voilà. Mais bon... Pour nous, on n'était pas tellement conscients du. Pour nous, c'est une punition. On ne comprenait pas pourquoi c'était une punition.
Oui, c'était une punition en plus non justifiée. Voilà. C'est ça qui
non justifié, voilà.
qui est encore plus, je suppose, impactant. C'est que vous ne méritiez pas tout ça.
Voilà. Sur le coup, on n'avait pas conscience. Et bon, on les punit. On a souvent dû faire une bêtise. Donc, c'est normal qu'ils nous punissent. Donc, on était dans cette logique-là. Mais dès qu'ils ouvraient le grenier, donc, nous, ce qu'on faisait avec ma sœur, ben, on s'échappait. Donc, c'était un petit village. Donc, et comme c'est le village où il y a pas mal de parentés à nous, donc, ils nous retrouvaient facilement. Mais bon, ça a duré jusqu'à pendant 1 an, parce qu'il faut rappeler aller à l'école là-bas. Et bon, après, je pense qu'ils se sont lassés un petit peu de notre comportement, parce qu'ils passaient leur temps à nous poursuivre dans le village, donc ils nous ont renvoyés chez nos parents. Hein. Et là, toujours maltraitance avec le père alcoolique qui partait avec la pension de ma mère, parce que ma mère pouvait une pension, mon père travaillait pas, donc avec la pension, il allait boire, et puis nous on attendait pour manger, hein, donc on se débrouillait comme on pouvait, donc, ma mère se débrouillait comme elle pouvait pour nous donner à manger, donc... Et ça a duré jusqu'à vers 6 ans et demi.
Oui.
L'institutrice de l'école où j'étais a fait un signalement parce que j'étais un enfant négligé, un enfant violent,
oui.
Qui avait des problèmes scolaires, qui n'obéissait pas, qui répondait, voilà, un enfant a un problème. Donc elle a fait un signalement auprès de la DAS. Et là, j'ai été placé à la DAS. Donc, pendant 10 ans, dans une dizaine d'années. La DAS, c'est bien, hein, je n'ai rien à redire.
Oui.
Je ne pense pas avoir été maltraité. J'ai au contraire appris l'hygiène, à respecter les gens, à respecter les lieux, vivre en collectivité. Donc voilà, ça s'est bien passé. Bon, ce qui manque, c'est le côté affectif. Donc, j'avais... cette carence affective, puisque ma tante n'était plus là. Donc, et mes parents étant incapables de donner cette affection, donc j'étais un petit peu en carence affective. Donc je m'attachais au moniteur, aux monitrices, mais bon, en pension, tous les 2 ans, on change de moniteur, on change de groupe. Donc, de nouveau, recommencer l'affection avec quelqu'un d'autre, donc c'était carrément des abandons successifs.
Oui, oui.
Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Hein.
Vous étiez arraché, en fait, vous étiez ballotté en permanence affectivement, en fait.
Voilà, j'étais, voilà, affectivement, je n'avais pas de stabilité. Et à 8 ans, c'est, donc, j'avais pris la décision que, bon, comme un gamin prend une décision, donc la structure familiale, c'est-à-dire père-mère, fratrie, pour moi, ça ne voulait rien dire. Donc, j'avais un petit peu, j'étais défiant par rapport à l'adulte. L'adulte me faisait, je n'avais pas de confiance. Je n'avais pas peur, et je n'étais pas non plus en désobéissance, en hostilité. C'est pas une hostilité que j'avais envers eux. J'étais méfiant. C'est-à-dire, un jour je te prends, un jour je te laisse. Donc voilà, j'étais dans l'incertitude. Donc je préférais me préserver. Oui. Ne pas trop m'investir dans un quelconque rapport affectif pour ne pas être déçu, pour ne pas être abandonné de nouveau. Et à cet âge-là aussi, je me suis dit, bon, quel sera mon futur ? Voilà, donc, parce que bon, si je ne me marie pas, donc, à l'époque, je ne pensais pas à l'homosexualité, hein, donc, c'était pas un mot à ma connaissance. C'est qu'à partir de 12 ans, où j'ai commencé à prendre conscience avec les rapports avec mes quelques camarades de pension, que j'ai pris conscience que, en fait, mon orientation serait homosexuelle. Donc, mais sans problème, je l'assumais, donc même si on est à l'école, la risée, fillette, voilà, toutes les colis n'est pas possible.
Oui, oui.
Mais bon, ça ne me dérangeait pas. Pour moi, c'était un choix qui s'était imposé. Donc,
Et c'était sans doute pour vous, alors peut-être je m'avance, mais c'était au moins une certitude pour vous. En tout cas, vous en parlez comme ça. Ça semblait, oui, être une certitude qui, voilà, un jour ou l'autre, vous amènerait peut-être l'amour que vous n'aviez jamais eu, en fait.
Voilà, pour moi, je n'avais pas le choix. C'est-à-dire que le cadre familial homme-femme, hétéro, on va dire, hein, pour moi, ça avait été qu'une souffrance, maltraitance, abandon. Donc, je ne voulais pas m'investir dans ce genre de structure-là. Mm-hmm. C'était, le schéma, pour moi, c'était niette, on va dire. C'était impossible. Donc, et c'est que vers 15 ans où j'ai pris conscience que j'étais homosexuel, puisque j'ai eu des relations avec un moniteur de colonie de vacances, hein, il avait 21 ans. Bon, certains diront, c'était, on va dire, de la pédophilie, mais bon, comme j'étais consentant, pour moi, je ne voyais pas de. Pour moi, il n'y avait pas d'élite.
Donc, vous aviez quel âge ?
J'avais 15 ans.
Mm-hmm. Bon, je crois que, oui, aujourd'hui la loi punit à 15 ans.
Oui,
hein.
Oui.
C'est à partir,
oui,
de 16 ans, non, la majorité sexuelle.
Oui, mais bon, comme c'était consentant, moi, c'est, pour nous, on mettait pas assez
longtemps. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais je vous dis ça parce que sais que, oui, j'ai eu affaire à la fille d'un éducateur qui a été condamné justement parce qu'il avait eu des rapports sexuels avec deux adolescents de 15 ans, consentants, ouais,
mais
bien des années après, ces ados ont remis ça sur le tapis et il a été condamné assez lourdement, d'ailleurs.
Oui, oui, parce que après, moi, j'ai eu, après les échos, que ce monsieur, justement, ce moniteur, a été un peu ennuyé. Parce que bon, comme c'était plutôt des attouchements, on va dire, c'était pas.
Oui, mais bon, vous comprendrez, Loïc, voilà, que lorsqu'on est moniteur, hein, vous comprendrez que lorsqu'on est moniteur dans une colonie,
oui,
de vacances,
oui,
on se doit, même si on est attiré, en tout cas, on se doit de rester à sa place. C'est
voilà.
Surtout, oui, et surtout, je pense, avec un garçon comme vous qui avait quand même si vous aviez des certitudes quant à votre sexualité. Vous aviez tout de même eu une enfance tout de même très compliquée ça pouvait vous déstabiliser encore plus.
Non, pour moi ça n'a pas déstabilisé parce que comme je vous dis j'étais consentant,
oui,
c'était mon choix. Et donc c'était l'occasion s'est présentée, je dis pourquoi pas, hein, donc voilà, je ne voyais pas de mal, ni mal ni bien, voilà, je dis ça s'est présenté, bon, bah, allons-y. Donc, moi je n'ai pas porté plainte, hein, je n'ai porté plainte contre qui c'est qui m'aurait aidé, je ne sais pas, à part le directeur de la pension, je ne sais pas, mais bon, je sais que je ne suis pas à l'origine de ces ennuis, voilà. Donc à 12 ans, j'ai été replacé de nouveau chez ses parents, mes géniteurs, hein, on va dire. Hein. Mm-hmm. Bon, c'était en pension l'ADA, c'était 20 ans, on avait 21 jours l'été. C'est-à-dire, il y avait trois convois. Hein, un convoi chez les parents, 21 jours, un convoi en colonie de vacances et un convoi à la colonie de vacances. Donc, je passais 21 jours chez eux. De 7 à 12, je pense qu'il y avait eu un jugement de la part des juges d'enfants qui interdisait mes parents à me récupérer. Donc, j'ai passé toutes mes vacances de ma jeunesse, de 5 à 12, bon, à Paris, chez la grand-mère, à Bourg-Saint-Maurice, chez un oncle, en Provence, à Tarbes. Voilà. Donc, j'étais encore de nouveau ballotté. C'est-à-dire, je devais encore m'adapter à de nouvelles familles, à nouvelles affections, de nouvelles règles aussi au milieu de la famille. Hein, parce que bon, mais bon, je me suis très vite adapté, j'ai très bien compris le système, hein, donc il fallait rester dans le rang, et puis si chez l'un c'était comme ça, et si chez l'autre c'était pas comme ça, mais hop, je m'adaptais. Bon, c'était des gens quand même très affectueux, hein, donc c'est pas à me plaindre de leur du passage chez eux, au contraire, je me suis bien amusé, on va dire. Voilà. Et donc après, je suis... À l'âge de 17 ans, donc on m'a replacé à nouveau. Bon, c'était le schéma de l'ADAS, hein, à partir d'un certain âge, on vous replace dans votre famille, hein, 17-18 ans, dans la majorité. Donc, c'est pas encore la majorité, hein, c'est à 21 ans. Et on vous replace dans le cadre familial. Donc, je suis arrivé de nouveau dans ce cadre familial. Bon, qui pour moi était toujours insécure, hein, donc j'évitais le contact avec mon père. Voilà, donc s'il était à la maison, j'étais plutôt moi à l'extérieur, me balader à la campagne, je me cachais. Voilà, je voulais pas le rencontrer.
Donc, vous suiviez une formation à cet âge-là, en fait, où vous étiez encore au lycée. Qu'en était-il de
oui,
l'école?
J'étais en seconde C.
D'accord.
Que j'ai raté parce que bon, c'est d'avoir une nouvelle liberté. Donc, en pension, on est très cadré. Hein, les parents surveillent, les moniteurs surveillent les devoirs. Voilà. Tandis que là, j'étais livré avec des parents qui, quand je fais, étaient incompétents dans la matière. Donc, ils nous utilisaient plutôt pour travailler à la maison, faire le ménage, parce qu'on devait aider notre mère. S'occuper des projets que mon père avait mis en place. Hein. Il avait mis en place des serres horticoles. Donc, voilà, donc comme il était alcoolique, donc, il est instable, donc il commençait le travail. Et après, nous, on devait se démerder avec ça. On s'est débrouillé, excusez-moi, sans polydrique. Donc, mais malheureusement, à l'époque que je suis rentré à la maison, ma mère était mourante, on va dire. Hein. Je suis rentré, je pense, en juillet. Et elle est décédée en janvier de l'année qui suivait. Donc, c'est arrivé. Bon, mais j'étais un petit peu livré à moi-même. Mm-hmm. Donc, j'ai carrément raté ma seconde. Bon, il faut dire que quand j'étais en seconde, bon, c'était sur la ville. Je connaissais pas trop la ville, donc je me suis un petit peu éclaté et donc je sortais beaucoup avec des hommes. Donc voilà. Donc les cours, c'était un petit peu, on va dire, secondaire. 2 mois après le décès de ma mère, donc mon père s'est fait décharger de ses devoirs paternels. Il nous a confié de nouveau à une nouvelle famille qui était ma sœur aînée avec son mari. Ma sœur aînée, elle avait 2 ans de plus que moi, hein, donc elle avait 20 ans. Donc, 20 ans, donc elle avait dû s'occuper de... on était trois, hein, 3 enfants en bas âge, mm-hmm. Donc un de 13 ans... un de 17 ans et moi qui allais avoir 18 ans. Donc, là, pareil, capacité à gérer une famille comme ça, du jour au lendemain, on devient pas parent. J'ai raté ma seconde et je suis reparti. Après, bon, j'ai fait, comme mon père avait fait les serres, l'horticulture, ça m'a plu. Donc, je me suis lancé dans l'horticulture. Et donc, j'ai fait un lycée horticole. J'ai réussi mes études. Mais j'étais toujours en recherche d'affection, même si ce cadre familial, je ne le reconnaissais pas, j'étais toujours en manque affectif. Donc, je m'accrochais à tout ce qui pouvait m'apporter
vous faire du bien.
De l'affection.
Ouais.
Me faire du bien, voilà.
Ouais.
Donc, après, là, c'était pareil. Comme c'était ma sœur qui s'occupait de mon cadre, moi, de ma situation scolaire, bon, j'étais en pension, donc je rentrais jamais le week-end. On partait avec des copains, des copines. Donc, c'est là où l'alcool, le cannabis est entré en ligne de compte. Hein, donc,
ouais.
Et donc, on voyageait, on passait les week-ends à Mont-de-Marsan, à Pau, dans les Landes. Voilà, donc, j'ai réussi mes études, donc je suis content.
D'accord, vous avez donc réussi vos études d'horticulture.
Voilà, ouais.
Et ce qui vous a mené assez vite à avoir une stabilité professionnellement. Vous
oui,
avez trouvé du boulot.
Oui, oui, j'ai trouvé du boulot à 21 ans. À 21 ans, je suis allé avec un maître de stage qui m'avait pris en stage et qui comptait m'embaucher. Mais là, j'avais un problème avec l'autorité. Moi, pas le, parce que là, c'est pareil, j'avais fait un transfert. C'est-à-dire, mon patron devenait mon père. C'est comme ça que je l'ai, que moi, je le comprends. Hein. Et donc, tant qu'il a été correct, j'ai travaillé quand même 19 ans chez lui, tant que ce père était correct, c'est-à-dire qu'il ne devenait pas comme mon vrai père, c'est-à-dire violent, injuste, hein. Et donc à un moment donné, je me suis aperçu que ce patron était incorrect. Donc, et là, j'ai mis les pieds dans le plat, mais c'était justifié. Pour moi, c'était justifié. Bon. Donc, je ne l'ai pas mis au prud'homme, mais pas loin. Donc, on s'est expliqué, j'ai eu gain de cause. Mais c'était toujours séparé, ce rapport au père. C'est-à-dire, j'étais en recherche d'un père, mais il fallait que ce père soit l'idéal. Voilà. Pas le père que j'avais eu auparavant, si j'en voulais pas. Je voulais un père parfait, voilà. Ce qui n'existe pas. Donc, et donc là, toute ma vie professionnelle a été un parcours de combattant. Parce que, toujours mon attachement affectif à l'autorité, à celui qui pouvait être l'autorité, c'est-à-dire le patron, qui pouvait être mon père. Donc, alors, je ne sais pas si eux, ils sentaient cette espèce de carence affective. Mais bon, toujours, j'ai dû en mettre un au prud'homme. Hein. Donc, j'ai gagné au prud'homme parce que, même si au départ, ça m'est bien collé entre nous, sauf qu'à un moment donné, je m'apercevais qu'il était abusif. Donc, et moi, le côté abusif, ça m'horripile.
Est-ce que vous avez l'impression que vous étiez aussi dans l'affect, dans les rapports professionnels?
Oui, oui. J'étais inconsciemment, j'étais dans l'affect.
Voilà. Ouais.
Tant que le cadre était bienveillant, il n'y avait pas de soucis. Voilà. Ça pouvait être un homme ou une femme. J'ai eu aussi des patrons qui étaient femmes. Hein. Mais le côté mère, bon, j'ai plus de réticence. Hein. J'avais quand même une répulsion par rapport à la mère. Hein. Donc, je me rappelle d'avoir eu une assistante sociale que j'avais rencontrée 10 ans après, qui nous suivait en pension. Qui était un peu trop possessive, je veux dire, voilà. Donc qui venait me chercher. J'étais témoin de Jéhovah, hein, à l'époque. Je suis aussi pas témoin de Jéhovah. Mais qui était très, je l'ai senti très possessif, qui me volait un petit peu ma liberté, de mouvement. Donc elle était, j'étais tous les week-ends.
Et affectivement, comment ça se passait pour vous? Est-ce que vous aviez trouver un compagnon ou vous démultipliez les relations?
Alors, au départ, j'étais addict au sexe, hein, donc c'était énorme. parce que je n'avais pas de... c'était que du plaisir, quoi.
Ouais.
Il n'y avait pas de recherche de stabilité. Mon premier amant, il avait 64 ans, donc c'était là aussi peut-être une recherche de père. Hein. Donc, moi,
est-ce que vous faisiez attention à vous? Parce que si je compte bien,
oui,
vous êtes né en 60,
Et
le sida est arrivé dans les années 80.
Oui, mais ça on peut en parler, parce que c'est justement le sida est intervenu dans ma vie, avec un compagnon avec qui je l'ai vécu pendant on va dire 27 ans. 27 ans, il m'est tombé dessus en 95. Hein, on était très libertins et donc on avait dit que bon, on peut aller papillonner à droite à gauche, mais sauf que quand tu viens à la maison, tu te protèges à l'extérieur, tu viens à la maison, voilà, il y a pas de problème. Sauf qu'en 95, ouais. Voilà. Ce copain, hein, on avait acheté une maison, on avait acheté une voiture, donc voilà, ça faisait 8 ans qu'on vivait ensemble sans problème, et puis là, c'est plutôt 94, c'est en 95 où mon affection s'est révélée être exacte. Hein.
On va continuer à évoquer, donc Loïc, cette vie, ouais. Et puis l'impact que cela a eu sur vous, cette enfance, hein, qui a bossé, ouais. Et puis ensuite l'apparition donc, de cette séropositivité. Vous restez avec moi, et puis on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
D'accord.
Trois heures passées de 4 minutes, vous êtes sur votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez, je vous le rappelle, composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, et venir évoquer votre vie avec nous, vous partager, chers amis, comme Loïc qui nous parle de lui ce soir, de son enfance et puis aujourd'hui de sa vie d'homme. Loïc, vous évoquiez cette séropositivité en 95. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu cette séropositivité? Parce que est-ce que vous l'avez pris comme une galère de plus, quelque chose qui sonnait avec le reste de ce qui vous est arrivé dans l'enfance?
Non, sur le coup, bon, je me suis dit, ça devait arriver. C'est-à-dire, quand mon copain m'a téléphoné en vacances, en me disant qu'à mon retour de vacances, c'était en septembre, hein, 94, hein, donc il m'a dit, il y a un petit souci, il va falloir que tu te fasses dépister au VIH. Donc, et je suppose que lui avait déjà commencé à se dépister, donc il avait un doute sur sa séropositivité. Sauf que pendant le mois d'août, comme moi j'avais confiance en lui et que les bases de notre couple c'était dehors, on se protège, dedans, sans protection, donc on a eu des rapports non protégés. Donc au premier test, j'ai été négatif. Donc déjà, c'était un soulagement pour moi. Je n'étais pas responsable de sa séropositivité. Et au second test, bien sûr, 3 mois après, hein, comme ça se faisait, en janvier, j'ai découvert que j'étais séropositif. C'était un élément que je n'avais pas prévu. Oui. Parce que bon, on se protégeait, on connaissait, on avait des amis qui étaient morts du sida. Donc,
vous étiez en confiance.
J'étais en confiance. Donc c'était une trahison que j'ai un petit peu mis de côté. C'est-à-dire, comme on avait un projet de maison, donc on avait juste d'acheter une maison, restaurer. Donc pendant 10 ans, moi j'ai restauré la maison. Voilà. Donc je l'ai intégré. Sauf que 2 ans après, bon, ben j'ai déclaré le sida. Donc et c'est là où c'était un peu plus catastrophique, parce que là j'ai failli mourir.
Oui.
On m'a épargné, donc je sais pas pourquoi, mais c'est grâce à une amie, hein, qui était venue un week-end, parce que moi j'étais à la maison, j'étais arrêté pour une gastro en dérite alors que j'avais une pneumocystose. J'étais à la maison, mon copain était à la maison, il me voyait bien dépérir, mais bon, il a pas eu l'idée de... Maintenant, en y réfléchissant, c'est pas l'histoire, hein. Il n'a pas eu l'idée d'appeler les urgences. Donc, c'est ma copine qui est venue de Toulouse par hasard un dimanche, et puis elle m'a dit, non, là, c'est pas une gastro, il faut l'amener d'urgence, parce que là, j'avais perdu 15 kilos, j'étais à bout de souffle. Elle m'a sauvé la vie. Plusieurs fois, elle m'a sauvé la vie. C'est mon ange gardien, on va dire. René, je la salue. Enfin, elle m'écoute, je pense. Donc, et c'est là où j'avais eu. Donc, je me suis remis, hein, j'ai mis 6 mois pour m'en remettre.
Oui.
Donc, j'ai fini mon premier emploi avec beaucoup de pression psychologique de la part de mon patron, puisque j'avais plus ou moins mis devant l'inspection du travail, devant la MSA, parce qu'il y avait des comportements de traitement phytosanitaire au sein de l'établissement qui portaient préjudice à la santé. Donc, j'avais mis les pieds dans le plat, comme j'avais eu raison, on va dire. Toujours pareil, j'avais une c'est, pour moi, c'était mon père, ce patron-là. Sauf qu'il a été défaillant, et donc là, quand il est défaillant, moi, je suis un pitbull. Hein. Donc, quand je fais quelque chose, après quelque chose, si je suis dans mon droit, à fond, donc tant pis. Donc, en 2005, j'ai quitté ce patron, hein, en ayant quand même gain de cause, hein, dans le remis en place, la sécurité dans les traitements. Hein. Moi, je suis PVT à haut, sauf que lui, il a fait l'abus de pouvoir, on va dire. Hein. C'était lui l'ingénieur qui détenait la vérité, sauf que bon, moi, je suis pas un con. Hein. C'est ça que je vous disais. L'abus me fait peur. Mais je suis méfiant par rapport à l'adulte, mais j'ai pas peur. C'est-à-dire, s'il faut l'affronter, je l'affronte. Donc, et voilà. Donc, le VIH, c'était pas prévu dans mon parcours. Voilà. Mais après, bon, j'ai fait avec. Hein, donc, et là, bon, c'est ajouté la problématique de l'alcool, du cannabis. Donc, parce que comme je n'avais pas d'explication, parce que mon copain, hein, que j'ai beaucoup aimé, hein, un jour m'a dit, on s'était engueulé, je crois, il m'avait dit, si ça avait été le contraire, si c'était moi qui t'avais contaminé, il m'aurait foutu dehors. Donc je dis, oula, il y a un truc qui va pas, là. C'est-à-dire, je passe l'éponge sur un truc grave, quand même. Parce que,
très grave, c'est pas, très grave.
C'est très grave, hein, donc... Et donc,
lui vous dit que si ça avait été l'inverse, il vous aurait foutu dehors.
Il m'aurait mis dehors, voilà, comme ça, du but en blanc, sans. Voilà. Donc il s'est mis à genoux un jour, en disant pardon, excuse-moi, j'aime pas les hommes qui pleurent, parce que pour moi c'était pas sincère, c'était juste une question de circonstance, bon, parce que je peux faire preuve d'affection. Mais là, c'était pousser le bouchon un peu trop loin. Donc bon, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai consolé, je dis c'est pas si grave que ça, parce que maintenant du VIH on n'en meurt pas. Hein, donc mais à l'époque on ne savait pas. Hein, donc bon, à l'époque j'étais condamné
à mort. Vous
hein,
êtes
donc,
oui, parce que vous l'avez attrapé à une époque tout de même où c'était encore.
En 95, on en mourait.
On en mourait. Ouais. On en mourait.
On en mourait. Ouais. Voilà. Ouais. Et en 96, bon, on a bénéficié des trithérapies, hein. Oui. Donc on a eu la première trithérapie sur la genêt. Donc bon, on a dû batailler, hein, avec le premier infectiologue qui était incompétent. Donc on en connaissait plus nous sur le sujet que lui, hein, parce que dès que j'ai eu le VIH, moi je me suis lancé sur toutes les recherches, les bouquins, tout ce qui en sortait pour voir ce qu'on faisait en Amérique, en Italie, en Israël, partout. Donc et donc on arrivait face à un médecin. Qui n'était pas infectiologue, hein, qui était gastro-entérologue, mais qui déjà avait une espèce de réticence vis-à-vis de nous, ne nous auscultait pas, donc là, voilà, un peu loin, en plus deux PD, excusez-moi, deux homos, j'aime pas ce mot, deux homos, donc là, c'était le col blanc qui, voilà, il a imposé, sauf que bon, comme je dis, moi, j'ai pas peur de l'adulte, hein, si l'adulte est dans l'erreur, moi, je lui rentre dedans, hein, donc, bon, pas avec les points, hein, je lui rentre dedans verbalement. Voilà. Mmh.
Quel impact cela a eu, tous ces événements, en fait, entre cette enfance difficile, et puis... bon, cette séropositivité qui, même si vous l'avez domptée, même oui. Vaincue à un moment avec cette trithérapie, oui. Vous m'avez dit que donc le cannabis et l'alcool étaient venus dans votre vie. Oui. On évoquait au début de votre témoignage que c'était sans doute la conséquence de toutes ces blessures. Oui. Aujourd'hui, oui. En fait, quel bilan vous pouvez tirer avec moi, comment allez-vous aujourd'hui, comment est votre vie aujourd'hui?
Moi, je vais très bien parce que je pense que la cure est, j'invite tous les gens qui ont un problème d'alcool, hein, ou d'addiction, j'ai compris par grâce aux psychiatres, aux psychologues, aux gens qui sont au sein d'un centre de cure, hein, parce que je suis passé aussi par l'HP, hein, j'ai tentative de suicide, HP, c'était un auditeur qui disait c'était Valium TV, hein, donc je suis resté 10 jours, mais c'était Valium TV, donc pas vraiment de suivi psychologique, donc là, j'ai rechuté par rapport à l'alcool. Après, j'ai fait plusieurs tentatives de sevrage, sauvage, mais bon, là, je me suis renseigné sur Internet, c'est très dangereux, c'est-à-dire on peut avoir des comas, on peut avoir des déliriums très minces, voilà, donc c'est faisable. Mais par contre, on n'y arrive pas parce que, comme l'addiction à l'alcool, c'est un mécanisme au niveau du cerveau, et il faut y mettre un interrupteur, mais c'est un interrupteur quand même, hein, c'est pas un stop. Là. On ne guérit pas de la pathologie alcoolique, hein. On est toujours malade. Donc c'est pour ça que chaque jour, comme disent
les narcotiques anonymes,
voilà. Ou les alcooliques chaque jour, anonymes, ouais. C'est un jour de gagner. Mais demain, voilà, demain il faut encore rebosser. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que c'est passé. Et j'ai eu un très bon psychiatre qui m'a fait comprendre que déjà, la solution alcool, c'était pour contourner les obstacles que je rencontrais. Mais je ne les affrontais pas, quand tu sais. Et donc, j'étais toujours dans l'évitement. Mais pas dans la vraie. Parce que comme j'étais tellement alcoolisé, que je n'arrivais pas à réfléchir, donc, et comme j'étais addict, donc, et je, chaque fois que j'avais un problème, je rebuvais, le problème il disparaissait momentanément, mais je n'allais pas affronter, donc le problème n'était jamais résolu.
Oui, oui.
Mais ça, c'est un mécanisme, c'est-à-dire, peut-être qu'un jour on en parlera, voilà, c'est un mécanisme au niveau du cerveau, ils arrivent maintenant un petit peu à le comprendre, c'est l'addiction. Il y a des gens qui peuvent boire, qui ne seront jamais addicts, mais il y en a qui, malheureusement, deviennent addicts.
Et qui peuvent devenir addicts, vous avez raison de le souligner, très, très rapidement, en ayant beaucoup moins bu que les autres. On marque une nouvelle pause, si vous le voulez bien, Loïc, et puis on se retrouve tout de suite après, d'accord ?
D'accord.
À tout de suite.
D'accord.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Il est 23h15, vous êtes sur Europe et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer toujours le 39-21, chers amis, ou intervenir au 7-39-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Loïc, alors cette vie aujourd'hui, sortie de ces 7 semaines de travail, d'un travail accru, parce que il faut travailler là.
Il faut travailler. C'est-à-dire, j'ai eu un très bon psychiatre qui n'hésitait pas à nous mettre le pied au cul, on va dire. Hein. C'est-à-dire, on vient pas pour lui, on vient pour nous. C'est-à-dire, moi, je laissais toutes les problématiques à l'extérieur et le jour où je suis arrivé en fin août, j'étais dans un état. Suicidaire, c'est voilà, j'étais dans un état de suicide lent. Je voulais mourir, mais bon, à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que tu vas mourir maintenant ? Et j'ai pris la décision, bon, j'ai passé une semaine de sevrage, mais alors, j'ai pas dormi, hein. J'ai pas dormi parce que j'avais peur que mon cœur s'arrête, là, j'étais sur les nerfs. Donc, et la cure, et grâce à la cure, voilà, j'ai pris conscience que éviter les problématiques par l'alcool, c'est pas la solution. Donc, et donc là, j'ai travaillé sur moi, sur mon passé, parce qu'on nous fait écrire notre parcours de vie. Et c'est là où j'ai réfléchi, je me suis apaisé. Je me suis aperçu que c'était pas en vivant que j'allais faire en sorte que mon père allait être idéal, ou que ma mère ne serait plus handicapée, ou que voilà. Donc j'ai compris que c'était que l'alcool, il fallait que je l'arrête et que je m'apaise par rapport à ce passé, parce que maintenant le passé il est passé, il faut voir l'avenir, donc je vois l'avenir. Donc là je suis dans un groupe de parole avec pas des alcooliques anonymes, sauf de vie 47, hein. Bon je le dis comme ça leur fait un peu de pub, qui apporte beaucoup, c'est la fréquentation, même si je vais pas toutes les semaines, tous les 15 jours, on a un partage des problèmes qu'on peut rencontrer, hein, la semaine, les envies, les échecs, parce que bon, il y a quand même, pendant le confinement, beaucoup de gens, malheureusement, même chez nous, hein, dans l'association, ont chuté. Donc, on s'appelle au téléphone, et voilà. Parce qu'on sait que quand on chute, j'avais une amie là qui a rechuté, on ne pouvait plus la joindre au téléphone. Donc, et quand je n'ai plus la joindre, je lui dis, là, quand il y a un problème, il ne faut pas s'isoler, parce qu'en s'isolant, c'est pareil, on est dans l'évitement. Donc, il faut toujours. Donc, elle a été dure, parce que, comme je l'appelais, elle a fait comprendre que j'étais intrusif, alors que c'était un appel pour la soutenir. Voilà, donc, le groupe de parole est important. C'est-à-dire, les gens, même si on n'est pas habitué à parler en groupe, on n'est pas obligé de parler, d'abord on vient, et après, petit à petit, on s'ouvre. Voilà. Donc, y a
oui, puis le groupe pèse, voilà. En tout cas, il rentre dans notre cœur, le groupe. J'ai l'impression que fait d'appartenir à ce groupe, cette communauté, donne de la force, tout de même. En tout cas, donne ce sentiment que on n'est pas seul, qu'on n'est pas anormal, qu'on n'est pas fou, que d'autres, très différents les uns des autres, souffrent de cette même addiction, avec des problématiques et des origines différentes. Et puis je pense que ça aide beaucoup à relativiser, entre guillemets, les choses, mais en tout cas à se dire qu'on n'est pas tout seul et que d'autres souffrent aussi comme nous, et que d'autres s'en sortent devant nous dans ce type de groupe, et que ça donne de l'espoir de voir certains se sortir d'une addiction dont ils étaient prisonniers depuis parfois très longtemps. Donc ça fait combien de temps que vous avez fini cette cure là ?
Là, je l'ai fini le 1er novembre.
Le 1er novembre, donc ça commence...
De l'an dernier. Hein.
De l'an dernier, donc ça commence à payer, là. Hein.
Ben oui, parce que comme j'ai résolu ma problématique, c'était mon passé qui m'ennuyait, parce que j'avais pas de réponse, il me faisait souffrir, j'en voulais à mon père, à ma mère, mais comme il me manquait des éléments, et c'est mon oncle qui m'a donné certains éléments supplémentaires pour expliquer mon passé, voilà, donc ma mère, je ne lui en veux pas, parce que bon, elle était dans l'incapacité physique et de pas pouvoir s'occuper de moi. Bon, mon père, par contre, j'ai un peu plus de réserve, hein, je veux dire. Il était aussi légionnaire, donc voilà. Donc j'ai plus de peine, plus de mal à lui pardonner. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas mon père, c'est qu'un géniteur. Pour moi, c'est un monsieur qui est passé dans la vie de ma mère.
Vous n'êtes pas obligé de lui pardonner, Loïc. En plus.
Non, je ne suis pas obligé de les parler.
Voilà, vous n'êtes pas obligé. Vous avez essayé et que vous sentez que c'était une montagne pour l'instant, trop difficile à gravir, il faut remettre à plus tard. Lorsqu'on vit des relations toxiques, sans pour autant haïr l'autre ou être en colère après l'autre, quand quelque chose bloque, bon, il ne faut pas insister, il faut remettre paisiblement, en tout cas essayer d'être en paix avec soi-même déjà.
Voilà, maintenant, je ne suis plus un homme en colère. Ma colère n'a plus de raison d'être. Voilà. Et donc, je suis apaisé, même si à l'heure actuelle, bon, je vis dans la précarité, hein, parce que je suis à la SS, je vis dans un mobile homme, au milieu des bois, un peu isolé. Mais je me dis, je fais avec ça. C'est avec ça, sans que ça me pèse. Ça ne me pèse pas. Je prends comme ça vient et je fais avec. Voilà. Et sans ça me dire, j'ai eu une maison, j'avais eu une maison, maintenant c'est une maison mobile. Mais ça c'est plus pesant. C'est-à-dire, je me débarrasse de tous ceux qui pourraient être source d'anxiété. Bon, je suis un traitement, hein, quand même, aussi, hein, qui aide. Hein. Voilà. Donc, tous ceux qui, autrefois, étaient une sorte d'anxiété, de déprime, je l'observe, je regarde, je me dis, est-ce que je peux changer ou pas? Si je ne peux pas changer, je dis demain, mais on verra demain. C'est pas. Il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Ma vie n'est pas en danger, même si auparavant, j'ai quand même pas mal mis en danger. Mmh. Là, ma vie n'est plus en danger. Elle est paisible, elle n'est pas. On va dire, c'est pas le pied. Hein. J'ai arrêté le cannabis parce que ça me donnait des hallucinations, donc, donc j'ai arrêté.
Bon, il faut bien arrêter, donc, oui.
Voilà, j'ai tout arrêté, hein, le cannabis ça fait 2 mois, hein, parce que là c'était hallucination sonore et visuelle.
Donc, et puis
là,
on s'aperçoit tout de même que lorsque on arrête ça, au bout d'un moment, c'est par expérience... à l'écoute des autres, car comme je le disais hier, je n'ai jamais aimé l'effet de ça, parce que j'ai essayé, comme tout le monde, c'est quelque chose qui ne me réussissait pas, qui me rendait un peu paranoïaque, pour tout vous dire, à petite échelle, on s'aperçoit en tout cas, quand j'écoute certains amis même, qui ont arrêté et qui avaient une consommation tout de même, pour certains, assez effrénée, la vie est beaucoup plus facile pour eux aujourd'hui. C'est franchement, c'est le jour et la nuit. On s'aperçoit que finalement, voilà, ils usaient de cette substance, ou d'autres hein, d'ailleurs, pour affronter une réalité dont ils avaient peur, et qui était chargée, comme la vôtre, de peur de se passer aussi, de problématiques non réglées dans ce passé. Bon, c'est ça finalement. Donc c'est très bien. Et ça tient bien au niveau de l'alcool. Vous n'êtes jamais tenté, parce que ça reste tout de même, comme on l'évoquait hier, en vente libre. Donc c'est.
Voilà. Je crois qu'hier vous avez évoqué ça. C'est-à-dire que maintenant, à l'heure actuelle, avec 50 centimes, on peut se payer une bière à 10 degrés. Donc, ou avec 1 euro, on peut avoir. On peut avoir un litre de rouge. Bon, mauvaise qualité, mais comme c'est pas, c'est, peu importe le produit, c'est l'éthanol qui est dans l'alcool qui fait l'addiction. Hein. C'est pas le whisky, c'est pas le martini, on s'en fout de la marque. C'est l'éthanol. Donc, mais voilà, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, ce genre, il n'y avait pas de drogue. Moi, je dirais bien quand même drogue. Sont à la disposition, et même on voit l'alcoolisme chez les enfants de 12-13 ans qui sont déjà, qui n'ont pas de pathologie alcoolique. Avec 50 centimes, on peut laisser payer une bière.
Oui.
Voilà, donc là, je pense qu'il y a un travail à faire de la part de l'État hein, sur ça, parce que bon, même le plus pauvre peut se payer un litre de rouge. Donc, j'ai fréquenté les SDF, bon, et je sais que même si vous n'avez pas en buvez du whisky, on finissait par boire du Castelvin. Je sais pas comment il s'appelle maintenant, hein, mais la bouteille de vin rouge mauvaise, mais bon, comme c'est l'éthanol qui rend addict, on s'en fout du truc. Donc, et puis à un moment donné, quand on a tellement bu, peu importe le produit. Donc, le principal, c'est d'arriver au stade d'alcoolisation où on tombe. Moi, j'ai fait plusieurs blackouts, hein, c'est-à-dire amnésie totale. On ne sait plus ce qui s'est passé. On a perdu 8 ans. J'ai perdu des fois 2 jours. Je ne sais pas. Arrêter le lundi, re-arrêter le jeudi, et ces 3 jours-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Par le même flic qui me dit, mais oui, mais ça fait 2 fois, là, la prochaine fois. Mais incapable de me rappeler. Mais c'est très dangereux. C'est-à-dire, c'est une pathologie que je trouve que l'État ne prend pas vraiment en charge. On a enlevé le janvier sec, là, hein, parce que les lobbies ont poussé au cul, on va dire. Hein. Mais bon, c'est pas faire un concours de ce qui va s'abstenir pendant un mois. Parce que pour nous, les alcooliques, c'est moi, je suis toujours alcoolique, hein, c'est-à-dire, même si je suis sur la guérison, hein, c'est pas à moi qu'il faut s'arrêter. Moi, je ne peux plus prendre un verre de vin. Donc, parce que je sais que même si je le veux, parce que c'est pas une question de volonté, je crois qu'une dame disait que c'est une question de volonté. C'est pas une volonté, c'est un mécanisme qu'on renclenche dès qu'on reboit de l'alcool. C'est un interrupteur qu'on a mis, mais l'interrupteur, on peut le mettre sur on ou sur off. Voilà. Donc, en rebuvant, eh bien, on le met sur on. Et c'est reparti. Donc, même si on dit, bon, demain, un verre,
surtout pas.
On prend un autre de plus. Ah, surtout pas. J'ai pas encore, je vais essayer de trouver sur Internet si des gens sont passés, parce qu'il y avait une dame, je crois, qui était passée de la pathologie alcoolique à la modération. Ça m'a un petit peu surpris. Mais bon, j'irai voir pour voir s'il y a eu des cas de gens qui, si c'est avéré que des gens peuvent passer de l'abstinence à la modération. Moi, d'après ce que m'a expliqué le psychiatre, parce qu'on travaille aussi sur cette pathologie, c'est ça qui est bien dans les centres, on nous montre le mécanisme, il faut bien l'intégrer. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui rechutent, il y a 80% quand même de gens qui vont en cure et qui rechutent. Hein. C'est statistique. Hein. Donc, ça fait que 20% des personnes, parce qu'il faut y aller en...
progressivement, doucement.
Il faut y aller vraiment avec très motivé, et suivre tout ce qu'on nous demande. Oui. Il y a du sport, il y a de la poterie, mais tout ça, ça a un sens. C'est pour nous faire reprendre confiance, c'est pour reprendre conscience du corps, on fait la peinture, c'est pour... parce que les alcooliques sont très impatients, impulsifs, donc des fois, le psychiatre, il arrive un petit peu en retard, c'est juste pour voir, il nous teste.
Il faut devenir docile, comme vous êtes en train de l'expliquer, c'est-à-dire lâcher prise.
Il faut lâcher prise
et bien écouter les personnes qui sont en face de nous, qui savent qui connaissent le chemin qu'ils vont vous faire prendre et être dociles et accepter tout ce, tout ce qu'on vous propose. Merci beaucoup, en tout cas, Loïc, pour cette intervention sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. Je suis ravi que vous alliez bien et parce que. Parce que vous.
J'espère que vous aussi.
Oui, oui, ça va très bien. Moi, j'ai aucun problème. Tout va très bien. En tout cas, je suis ravi que vous alliez bien aujourd'hui et que vous ayez bien conscience de cette de cet effort développé et de cette force que vous avez aujourd'hui en vous. Alors pour ça, bravo, mon cher. Comme on vous le dit sans doute en réunion aujourd'hui, bravo, vous pouvez être fier de vous.
Voilà.
Merci beaucoup, Loïc. Passez une bonne soirée. Au revoir.
Oui, à vous aussi. Au revoir.